Bonsoir et bienvenue sur Zikosport, vous êtes avec Audrey pour l'émission Vitamines. Ce soir, nous aborderons dans un premier temps les Vitamine News avec Google, MyBlogLog et Dig. Ensuite, on continuera avec un flash info de Top Logiciel qui vous sera présenté par Kevin. Genzo vous présentera sa chronique spéciale C-Byte, le salon qui s'est déroulé à Hanovre ces derniers jours. Concevoir un site de A à Z et la nouvelle chronique présentée par Damien. On continuera avec l'interview d'Éric Dupin qui est un blogueur très actif sur le web et le créateur de fuzz.fr et on terminera par les bookmarks de Vitamines.
20h, 21h, un jeudi sur deux, retrouvez sur Zikosport Vitamines.
Et c'est parti pour les Vitamine News. Vous avez sans doute déjà entendu parler ou utilisé MyBlogLog, ce système qui vous permet en plaçant un code JavaScript sur votre site ou votre blog d'en savoir plus sur vos lecteurs, leurs messages, leurs sites web et les communautés qu'ils fréquentent. Vous savez sans doute aussi que MyBlogLog a été racheté par Yahoo en début d'année. Pas moins de 10 millions de dollars environ ont été investis dans ce rachat. MyBlogLog sera géré comme une entité à part entière, mais avec la possibilité pour les utilisateurs de se connecter avec leur compte Yahoo, un peu comme Flickr, ou le service questions-réponses de Yahoo. MyBlogLog serait disponible sur près de 45 000 blogs et aurait enregistré des photos et des informations personnelles de près de 30 000 lecteurs. Il y aurait près de 3 millions de lecteurs de blogs par jour qui semblent préférer les sujets technologiques et l'immobilier, ce qui ne surprendra personne. Le PDG de MyBlogLog, Scott Raffer, précisait récemment que le réseau social est une des choses les plus importantes pour le développement de la société. En effet, selon lui, les gens cherchent des informations sur Google et Wikipédia et consultent des blogs au hasard à la recherche d'informations originales. Les analyses de ce que lisent les lecteurs et le suivi de leur comportement sont des informations qui pourraient être revendues à des sociétés en vue de proposer à ces mêmes lecteurs des produits et des services ciblés. Scott Raffer pense que ce service pourrait devenir un outil incontournable si Yahoo parvenait à obtenir un nombre conséquent d'utilisateurs, et le service pourrait facilement migrer de l'échange des lecteurs à propos d'un blog à un ensemble d'échanges sur une communauté, voire des groupes, puis des services de rencontres. Après ce rachat, on parle beaucoup de MyBlogLog ces temps-ci sur la blogosphère. En effet, Jennifer Slegg explique sur son blog que ce qui a attiré son attention serait l'éventuelle revente des informations des lecteurs de MyBlogLog. Mais ce qui est intéressant, c'est que MyBlogLog ne se contenterait plus de tracer uniquement les visiteurs, mais comptabiliserait aussi les clics de vos AdSense et de vos annonces Yahoo. Le JavaScript utilisé pour MyBlogLog indique clairement des URL de Yahoo et de Google. Maintenant que Yahoo a racheté MyBlogLog, il est concevable qu'il détecte les clics réalisés sur les annonces Yahoo, mais qu'en est-il réellement pour les clics des AdSense de Google? Jennifer propose d'étudier les données dont ils disposent. En effet, ils connaissent la source du trafic de vos pages, mais aussi combien de fois vos annonces AdSense ou Yahoo ont été cliquées, et quelles annonces spécifiques ont été cliquées, de la même façon que Google AdSense détecte un clic sur votre page. Et comme MyBlogLog est une entité de Yahoo, cela fait beaucoup d'informations que Yahoo peut connaître sur son principal concurrent, qu'est Google, à propos des annonces affichées et des clics générés sur celles-ci. Ils pourront alors étudier et comparer le ciblage de leurs annonces. Mais ce n'est pas tout. Ce qui semble le plus grave, c'est que le plugin AdSense Tracker semble confirmer que le JavaScript de MyBlogLog a été ajouté uniquement dans ce but. La politique de MyBlogLog n'est pas très claire sur ce point, car il est dit que MyBlogLog ne partage pas vos informations personnelles avec d'autres personnes ou des sociétés non affiliées. Cela signifie-t-il qu'une société affiliée pourra obtenir vos informations? Bien entendu, rien n'est précisé sur ce qui pourrait être les sociétés affiliées en question. Comme dit Jennifer, il pourrait aussi bien décider quelle société est affiliée afin de leur vendre ces informations. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de dire ce qu'ils font réellement de ces informations, mais une chose est sûre, les clics sont détectés. À vous maintenant, utilisateurs de MyBlogLog, d'analyser votre cas et de voir si ce système pourrait vous pénaliser ou non. Imaginez que votre principal concurrent devienne une de ces sociétés affiliées de Yahoo. Elle aurait sans doute accès aux informations concernant vos annonces Yahoo et Google AdSense. Yahoo n'était sans doute pas au courant, mais l'équipe de MyBlogLog précise que cette fonctionnalité aurait été rajoutée à la demande des utilisateurs. Et la même fonctionnalité sera sans doute bientôt disponible pour MSN, AdBright, BlogAd, etc. Dans un article de septembre dernier sur le blog de MyBlogLog, l'équipe a invité même les utilisateurs à préciser par quelle autre régie les utilisateurs de MyBlogLog seraient intéressés. Il précisait aussi que les résultats obtenus avec le script étaient loin de la réalité, car il ne détenait pas les méthodes employées par Yahoo ou Google pour considérer un clic comme valide. C'est pourquoi le nombre enregistré par MyBlogLog serait sensiblement supérieur à ce que Google indiquerait par exemple dans les rapports, et la différence pourrait correspondre aux clics frauduleux. Ils ajoutent enfin que cette option n'est pas réservée qu'aux membres qui payent, et aussi que Google a pris connaissance de cette fonctionnalité sans protester. D'après eux, les informations fournies par MyBlogLog et collectées indépendamment de Google AdSense ne semblent pas considérées comme étant des données personnelles si on regarde les conditions du service de Google. Notons aussi que certains blogueurs comme ShoeMoney, après avoir été bannis et remboursés de leur annuité par MyBlogLog, ont signalé quelques failles dans le service. ShoeMoney nous indique notamment sur son blog celle qui permet de se faire passer pour un autre lecteur, celle qui, grâce aux cookies, permet d'afficher des communautés sur votre profil auxquelles vous n'avez pas souscrit, et encore une autre, vous pouvez facilement obtenir un lien avec une encre ciblée en cliquant d'une certaine façon. Décidément, ce service aura fait couler beaucoup d'encre, si je puis dire. J'espère surtout que ça ne sera pas une énième façon de se faire spammer son blog ou son site. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez venir en parler sur le forum de Vitamine, www.vitamine.com/forum. Ou encore sur le chat de la radio. Pour nous rejoindre sur le chat, rien de plus simple. Vous tapez www.zicosport.org avec un Z et un K. Et sur la droite, vous pourrez vous connecter en saisissant votre pseudo. D'autre part, vous retrouverez toutes les URL dont je vous ai parlé ce soir dans le billet que je publierai après l'émission ainsi que le podcast de celle-ci.
Vitamine sur Zicosport.
Passons maintenant à Google, dont la commande site semble avoir quelques problèmes, comme le fait remarquer David Naylor sur son blog. Le problème qui a d'ailleurs été baptisé sur certains forums US le problème 260. Pourquoi 260? Eh bien, si l'on prend l'exemple de la commande site searchenginewatch.com, la commande ainsi tapée sans espace et mots-clés à la suite semble présenter un bug et ne pas afficher l'ensemble des résultats. Elle indique pourtant 260 résultats. Seulement, comme le fait remarquer Danny Sullivan sur son blog, il n'y aurait que 260 pages d'indexés pour un site qui en comprend des centaines. Ceci peut être temporairement résolu, comme indiqué sur le blog de Google, en cliquant sur « Relancer la recherche en incluant les pages ignorées ». Mais le bug est encore en cours de résolution. Danny Sullivan rappelle que Google essaie par divers moyens de lutter contre le contenu dupliqué. Il avait d'ailleurs remarqué avoir eu des pages de Search Engine Watch pénalisé en tant que contenu dupliqué pour avoir mis les mêmes balises méta sur plusieurs pages. Voici la clé qu'il a d'ailleurs détectée. Les pages étaient vues comme contenu similaire par le processus de classement des positions et non pas par le processus de recherche de Google. Seules les balises méta ou le premier texte rencontré sur la page ont été consultées pour cette requête. Malgré tout, ces pages n'étaient pas placées en contenu dupliqué par le moteur et continuaient à apporter du trafic. Mais dans ce cas-ci, la situation est différente. Les pages ne possèdent pas de méta similaire et elles sont quand même identifiées comme contenu dupliqué. Il semblerait donc que ce soit un bug d'affichage qui n'affecte pas le positionnement des pages.
Sur Zicosport, tu as meilleure mine avec Vitamine.
Le dernier sujet que je voulais aborder ce soir avec vous concerne Digg.com. Une journaliste du magazine américain Wired a acheté des votes sur Digg pour améliorer le classement de son blog. Cette journaliste, Annalie Newitz, met en cause le système qui a fait le succès de ce site de hiérarchisation de contenu en précisant qu'il peut être facilement détourné. Alors, quelle est sa démarche? Elle a d'abord créé un blog sur le thème des photos de foule récupérées sur Flickr avec des commentaires. Ensuite, elle s'inscrit sur Digg et rédige un post intitulé « Pourquoi les gens sont-ils fascinés par les foules ?» Personne ne réagit pendant les 4 premières heures. Elle fait alors appel à un service appelé User Submitter qui permet d'acheter des votes moyennant $20 de frais de dossier et $1 par vote acquis. Les utilisateurs de Digg qui acceptent de participer à ce système perçoivent, eux, $0,5 pour 3 articles cliqués. Avant de tenter l'expérience, les responsables de Digg ont été mis au courant et ont affirmé que le système ne pouvait pas être détourné et que les tentatives de manipulation de votes ont jusqu'à présent échoué. Or, quelques heures après avoir acheté des votes, la journaliste constatait une quarantaine de votes. Elle fit aussi remarquer que la plupart de ceux qui ont voté pour son poste avaient déjà cliqué sur 3 autres articles, dont un sur Photoshop. Elle tient à prouver par là que les votes ont bien été achetés. De plus, elle n'a pas reçu de visite en provenance de Digg sur son blog. Ce qui tend à prouver que les cliqueurs n'ont même pas contrôlé ce pour quoi ils ont voté. Étant propulsé comme populaire, le poste de la journaliste a par la suite amassé des clics non rémunérés. La journaliste rappelle que les utilisateurs votant les premiers sur un article, qui devient par la suite très populaire, voient leur réputation croître dans le système de Digg. Elle indique aussi que si vous essayez de grimper l'échelle de Digg, il est dans votre intérêt de voter pour tout article qui donne l'impression de gagner en popularité. Et son blog s'inscrivait dans cette description grâce au vote acheté. Le poste a depuis reçu plusieurs votes négatifs, mais la polémique est lancée. Tout d'abord, User Submitter, qui indique que Digg leur permet de contrôler qu'un utilisateur a bien voté pour un poste grâce au système du « qui a voté ». D'autre part, TechCrunch reproche au magazine américain de lancer sciemment la polémique pour conflit d'intérêts. En effet, la maison mère de Wired, donc le magazine américain pour lequel travaille cette journaliste, est également propriétaire de Reddit, concurrent de Digg.
Vitaminez votre site.
Voilà, les Vitamin News, c'est fini pour ce soir. Tout de suite, vous retrouvez le Flash Info de Top Logiciel, avec par la suite la chronique de Genzo sur le C-Byte, la chronique de Kazar sur comment concevoir un site de A à Z. Ne loupez pas l'interview de Eric Dupin, et on terminera avec les bookmarks de Vitamin. À tout à l'heure.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le Flash Info de l'équipe de Top Logiciel pour la radio Zycosport. Une édition très spéciale aujourd'hui car consacrée quasi exclusivement au nouveau système d'exploitation de Microsoft, Windows Vista. Au sommaire de cette édition donc, Windows Vista ou comment contourner l'activation du nouveau système pour l'utiliser gratuitement pendant un an. Mais aussi, nous aborderons le sujet du cybersquattage avec la création d'un observatoire du cybersquatting. En outre, nous parlerons de Endemol France qui est à la recherche des geeks et enfin, le logiciel sélectionné par notre rédaction, OneFocal.
Zycosport.
Brian Livingstone, le responsable du site Windows Secret, a trouvé une nouvelle méthode pour contourner l'activation de Windows Vista. Elle permet, en effet, de repousser d'un mois supplémentaire le délai d'activation et ce jusqu'à 8 fois. Concrètement, on peut se servir de la première méthode pour utiliser Vista pendant 4 mois, puis de la seconde pour repousser l'activation de 8 nouveaux mois pour un total d'un an. D'après Livingstone, il s'agit de portes dérobées laissées par les développeurs de Vista pour les entreprises qui auraient des problèmes avec l'activation. Il affirme en outre que la manipulation a déjà été testée avec succès des douzaines de fois sur différentes éditions de Vista. Concernant la première méthode, Microsoft avait réagi en indiquant que la commande ne violait pas la licence utilisateur et qu'elle pouvait donc être utilisée légalement. Cette fois-ci, par contre, l'éditeur hausse le ton et annonce que cette manipulation rentre dans la catégorie des hacks et viole donc la licence utilisateur. Passons désormais au cybersquattage et à la création d'un observatoire du cybersquatting. Tout d'abord, une définition, le cybersquatting. Le cybersquatting consiste à déposer, en contrevenant délibérément au droit de la marque, le nom de domaine correspondant au nom d'une entreprise ou de l'une de ses marques, afin de profiter du trafic qui se crée spontanément dessus. Il peut être pratiqué a priori, avant que la société ait pensé à déposer elle-même son nom de domaine, ou a posteriori, dans le cas où la société oublie de le renouveler. Selon la jurisprudence, le cybersquatting tombe sous le coup du droit de la propriété intellectuelle et du droit des sociétés, concurrence déloyale, parasitisme. Le Forum des droits sur Internet vient donc de mettre en place un judicieux observatoire. Il a pour mission de prévenir du détournement et ou du vol de noms de domaine. Avec les élections, l'observatoire propose de créer un sous-domaine élections.fr qui sera accolé au site officiel des partis politiques. Passons désormais à Endemol France, qui est à la recherche des geeks. Notre confrère Zataz News nous rapporte qu'une casteuse chez Endemol France est en train de faire le tour de la blogosphère pour trouver des futurs participants d'une émission. Baptisée Beauty and the Geek, elle se révèle être la copie conforme d'une émission américaine mettant en scène de superbes filles, pas vraiment malignes, et des matheux, malins, mais super moches. Sa mission est de trouver des geeks, bref, des amateurs d'informatique, pour les mettre face à des top modèles, du haut niveau, pour ne pas changer les habitudes devant des molles. L'émission sera tournée en avril pendant 2 semaines, puis diffusée sur TF1 ou M6 l'été prochain. Passons désormais au logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel, Winfoké. Winfoké est un excellent logiciel car il vous permet d'obtenir de nombreuses informations sur votre système. Informations système donc, informations propriétaires, informations registres. Ces informations sont toutes issues de la base de registre, garantissant leur fiabilité. Nous vous proposons désormais un mini tutoriel permettant de retrouver votre clé de licence de Windows XP. De nombreux logiciels existent pour trouver cette clé. Par exemple, de nombreux sites proposent UKXP, mais ce logiciel n'est pas toujours fiable et souvent introuvable. Vous souhaitez donc retrouver votre clé de Windows XP car vous allez bientôt formater, il vous suffit de télécharger Winfoké. Winfoké est téléchargeable sur www.top-logiciel.net, mais aussi sur le site de l'auteur www.ptoris.com. Ce petit logiciel ne nécessite aucune installation et vous permettra d'obtenir de nombreuses informations issues de la base de registre, en l'occurrence votre clé de licence XP. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et vous proposons de nous retrouver sur notre site www.top-logiciel.net et bien évidemment dans la prochaine émission Vitamine pour le prochain Flash Info.
Voilà, merci à l'équipe de Top Logiciel pour ce Flash Info. On retrouve tout de suite la chronique de Genzo. Et par la suite, on continuera avec celle de Kazar, comment concevoir un site de A à Z. Par la suite, l'interview de Eric Dupin. Puis pour finir, les Vitamin News. Alors bonsoir Genzo. Ces jours-ci, tu as eu l'occasion de te rendre à Hanovre, en Allemagne, pour le salon Seabyte. Alors dis-nous, le Seabyte, c'est quoi au juste ?
Alors bonsoir Audrey et bonsoir à tout le monde. Grâce à ma formation en fait en BTS informatique de gestion, j'ai pu passer 5 jours en Allemagne et à Hanovre pour visiter le salon Seabyte. Donc le Seabyte, c'est un regroupement de 6300 exposants sur 300 000 m² de stands et plus de 500 000 visiteurs. Cette année, le Seabyte a lieu du 15 au 21 mars et l'année prochaine, ce sera du 4 au 9 mars.
Ah d'accord, en fait, il sera plus court l'année prochaine.
Oui, il sera plus court l'année prochaine, vu qu'ils ont prévu quelques modifications au niveau de l'organisation.
Alors, tout à l'heure, hors antenne, tu m'as parlé de quelques points négatifs pour ce salon. Quels sont-ils ?
Alors, en effet, j'ai trouvé 3 points négatifs. Le premier, c'est l'absence de certains gros exposants. J'ai pas pu trouver, par exemple, HP, Shuttle ou encore Cisco. C'est dommage pour Cisco, vu que c'est un assez gros constructeur. Alors, ça me paraît vraiment louche pour Cisco, parce qu'ils sont quand même une grosse entreprise et ils innovent beaucoup.
Oui, en effet, on s'étonne qu'ils soient pas là, surtout qu'ils sont présents la plupart du temps à ce genre de salon.
Sinon, j'ai pu remarquer qu'au niveau documentation, il y avait très peu de documentation en anglais. Tout était en allemand, bon, je comprends vu que le salon est basé en Allemagne, mais normalement, il est censé être international, donc c'est un point assez négatif.
Oui, et vu que toi, tu ne parles pas allemand, ce n'était pas très pratique.
Voilà, tout à fait, ouais. Il manque aussi pas mal de techniques au niveau du salon. C'est vrai que quand on est dans l'informatique, normalement je suis en formation en informatique et que c'est pour la formation, on s'attend au moins à beaucoup plus de techniques et quelque chose de plus condensé en fait.
Ok, alors voilà en ce qui concerne les points négatifs, mais tu as quand même dû noter quelques points positifs à ce salon.
D'abord, il y avait de très beaux stands comme Netgear par exemple. Il était sur 2 étages, le rez-de-chaussée était pour tout ce qui était de matériel, et le deuxième c'était un salon VIP, donc ça représentait en fait une maison, c'était assez sympathique pour du Wi-Fi. Et en plus, bon, les stands proposent un bon accueil, on va dire, les hôtesses sont vraiment sublimes, et de nombreux sujets sont abordés lors du salon, comme la téléphonie mobile, le hardware, la VOIP, le GPS, ainsi que les jeux vidéo.
Ok, merci, alors quelle est la nouveauté qui t'a le plus marqué en fait ?
Alors j'ai remarqué sur le stand Samsung, en fait, ils allaient proposer à partir de mai un écran LCD qui se branche par USB, donc c'est plug and play. Cette nouveauté va donc proposer de plugger 5 écrans sur une même machine, donc par USB, et ainsi d'avoir une résolution maximale de 7680x1024 en longueur. Donc si on les aligne horizontalement, on peut aussi très bien placer les écrans comme on veut. Par contre, on n'a pas plus d'infos niveau technique. C'est assez dommage, donc on verra ça au mois de mai, quand ça sortira.
T'imagines 5 écrans sur ton bureau ?
Ça fait pas mal, on risque d'avoir des torticolis en fait à force.
Ça commence à faire. Alors, ta conclusion, ton séjour là-bas, ça s'est bien passé?
Ça s'est plutôt bien passé, oui. Donc du coup, c'est dommage de partir en Allemagne sans parler un mot d'allemand. Donc ça m'aurait plutôt arrangé au niveau du salon à cause des problèmes de documentation. J'aurais pu en prendre plus et donc on les comprendre. Le Cibite perd de plus en plus d'intérêt face aux autres salons comme le CES à Las Vegas. Alors je sais pas vraiment si c'est d'un point de vue Europe que ça déconne ou pas, mais c'est vrai que le Cibite est de moins en moins populaire au niveau mondial.
Merci beaucoup, Genzo.
Merci, bonne soirée Audrey et bonne soirée à tout le monde.
Vitamine sur Zikosport.
Vous êtes toujours sur Zikosport avec Audrey pour votre émission Vitamine. On retrouve tout de suite la nouvelle chronique de Kazar qui s'intitule « Comment concevoir un site web de A à Z ».
Merci Audrey et bonsoir à tous. Vous en avez probablement déjà fait l'expérience, la conception d'un site web est une lourde charge de travail. Nous allons voir ensemble les diverses étapes de cette conception dans le but d'obtenir un site fonctionnel et optimisé au maximum. Tout d'abord, la partie la plus importante, sans laquelle il n'y aurait rien. Il faut que nous définissions le sujet de notre site web. Si vous concevez un site web sans sujet particulier, le projet est voué à l'échec. En effet, un visiteur qui arrivera dessus ne saura pas de quoi il en retourne. Voyant du contenu de tout type, il ne saura pas où donner de la tête et cliquera sur la touche « Page précédente » de son navigateur. Ce sujet peut être aussi divers que vous le désirez. L'important, c'est qu'il vous intéresse. En effet, dans le cas contraire, vous vous lasseriez rapidement de ce sujet, et soit vous tenteriez d'insérer du contenu d'un autre type, ce qui nous fait revenir à ce que nous avons dit plus tôt, soit vous laisseriez simplement votre site à l'abandon. Mais il faut également qu'il soit assez vaste pour concevoir un vrai site. Si votre sujet est l'évolution démographique des pingouins pendant la Seconde Guerre mondiale, vous risquez très rapidement d'arriver à court de contenu à placer et de visiteurs. L'avantage est que vous n'aurez aucun concurrent. Si vous prenez comme sujet les sites web, vous aurez énormément de choses à raconter sur votre site, plein de visiteurs à récupérer, mais également énormément de concurrents contre lesquels vous devrez vous battre pour être le meilleur et le rester. Il faut donc trouver le juste milieu. Vous l'avez trouvé? C'est parfait. Il vous faut maintenant définir les besoins de votre site en termes de développement et de ressources. Utiliserez-vous un script déjà construit ou devrez-vous tout développer par vous-même car vous souhaitez fournir un service pour lequel aucun outil générique n'est disponible? Aurez-vous besoin de ressources minimalistes, d'un langage de programmation particulier, d'applications particulières? En fonction de ces besoins, vous devrez revoir à la hausse ou à la baisse le coût de votre installation. Si vous avez des forts coûts en développement et aucune expérience, il vous faudra également faire appel à un développeur professionnel. Si vous avez des gros besoins ou des besoins particuliers en termes de ressources, vous devrez louer un serveur dédié et ne pas vous contenter d'un hébergement mutualisé. Il vous faut également voir ces besoins intelligemment. Vous prévoyez des millions de visiteurs sur votre site et préférez donc prendre un serveur dédié? Peut-être serait-il mieux de prendre un hébergement mutualisé pour commencer, puis si votre site évolue, de revoir votre hébergement à la hausse. N'hésitez pas non plus à comparer les divers hébergeurs. Tous proposent des offres alléchantes. Ne prenez pas forcément le moins cher, car c'est généralement également celui qui a un support le moins performant, et donc qui sera le moins réactif lorsque vous aurez un souci quelconque. Maintenant que vous avez défini tous ces paramètres, nous allons pouvoir passer au développement de votre application. Mais nous verrons cela dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site Top Hébergement, TOP-HEBERGEMENT.net, pour avoir une comparaison des divers hébergeurs mutualisés et de serveurs dédiés. En revanche, il n'existe aucun site vous permettant de trouver le meilleur sujet pour votre site. Cela, il n'y a que vous qui pouvez le faire. À dans 2 semaines. Audrey, c'est à toi.
Merci beaucoup, Damien. Alors, vous pourrez retrouver sur Vitamine dans 15 jours la suite de cette nouvelle chronique. Pour l'heure, on va s'écouter tout de suite un titre, il s'agit des Fratellis, Chelsea Dagger. On se retrouve tout de suite après ce titre pour une interview spéciale avec Eric Dupin, le créateur de Fuzz.fr.
Sur Zikosport, tu as meilleure mine avec Vitamine. Sur Zikosport, tu as meilleure mine avec Vitamine.
Bonjour Eric, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît?
Oui, je m'appelle Eric Dupin, je suis de métier web designer, c'est-à-dire concepteur de sites internet, et je travaille dans une petite agence qui est ma société sur Lyon.
Quand et comment avez-vous créé votre blog PresseCitron.net? Que vous apporte-t-il?
Alors après, Citron a été créé en fait dans une première version en avril ou enfin début 2003. Mm-hmm. Et à l'origine, c'était la thématique était un petit peu différente. Il s'agissait de parler déjà de nouvelles technologies, mais surtout de médias, parce que j'avais un intérêt et j'ai toujours un intérêt assez prononcé pour les médias évidemment Internet, mais aussi les médias dits traditionnels. Donc l'idée c'était à la base de faire un blog collaboratif à plusieurs qui était un espace de discussion et de un petit peu de avec un œil critique sur les médias, sur la presse, les journaux, la TV, la radio. Et puis peu à peu en fait, je me suis aperçu que j'avais pas assez de temps à consacrer à un projet qui était quand même un projet un petit peu d'envergure et qu'il aurait fallu mener à plusieurs. Et donc j'ai recentré le blog Presse Citron en juillet 2005. Sur une thématique beaucoup plus proche de mon activité professionnelle qui est le web au sens large, les applications web, le métier de webmaster et puis tous les sujets périphériques.
À ce sujet justement, est-ce que vous pourriez nous préciser en quelques mots le métier de web designer, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier et en quoi ressemble une journée type de boulot pour vous si vous travaillez seul ou avec des développeurs ou des graphistes?
Alors en fait, moi, dans ma structure, je suis j'ai monté une société qui est une SARL unipersonnelle, c'est-à-dire que je suis seul. C'est un choix délibéré du départ. D'accord. Et je travaille, je suis seul dans la structure juridique, si vous voulez, mais je travaille rarement seul puisque nous travaillons en équipe avec des designers et des développeurs freelance. Et en fait, on est toujours au moins deux ou trois, voire quatre ou cinq sur un projet. Donc il m'arrive évidemment de faire des développements de mon côté pour des petits développements, mais la plupart du temps, dès qu'on a un développement un peu d'envergure, on travaille à plusieurs et j'ai des gens qui sont compétents et dont j'ai la chance qu'ils soient assez disponibles pour moi, et donc en fait on travaille presque à plein temps en permanence ensemble. Alors après, pour vous répondre sur une journée type de travail, il n'y en a pas vraiment. La journée type, c'est de passer beaucoup de temps sur son clavier et sur son écran. Évidemment, moi, la partie blog tient une place de plus en plus importante dans mon environnement professionnel et fait partie à part entière de mon métier. Enfin, c'est ce que je considère en tout cas. Donc, on va dire que je consacre à peu près 20 à 30% de mon temps, veille incluse, à gérer mon blog, à répondre aux commentaires, à me documenter. Et puis, le reste du temps est vraiment du temps de gestion de projet et de développement directement.
Si vous le voulez bien, on va maintenant parler de ce qui intéresse la plupart des Vitaminotes qui nous écoutent ce soir. Il s'agit de Fuzz. Ouais. Alors, il y a un internaute qui a laissé sur le forum une question pour vous.
Ouais.
Il assimile en fait le concept des dig-like en général comme du sous-journalisme et il vous demande quel est l'intérêt de ce genre de site et votre position sur la question.
Oui, alors c'est une question qui revient assez régulièrement. Alors déjà sur le fait que ce soit du sous-journalisme, non, en fait c'est pas du sous-journalisme parce que c'est pas du journalisme du tout. Je suis pas journaliste, les gens qui travaillent sur Fuzz ne sont pas journalistes et les contributeurs de Fuzz, c'est-à-dire les 3500 ou 4000 membres inscrits sur le site, ne sont pas des journalistes, enfin peut-être certains le sont, mais en tout cas non, ça n'a rien à voir, c'est simplement un agrégateur d'informations qui permet de trouver rapidement les informations du jour sur un seul endroit et surtout avec un système de notation qui fait que les informations ne sont pas jugées par un seul comité éditorial de quelques personnes, mais par l'ensemble des Fuzz Notes et des membres du site. Donc sur cette question-là, il n'est pas du tout question de faire du journalisme ou du sous-journalisme, c'est plutôt l'inverse. Après, l'intérêt de ce genre de site, alors ça c'est pas tellement moi qui dois répondre à cette question, c'est plutôt les visiteurs et le nombre de visites qui peuvent répondre. Et puis alors ma position sur la question, si vous voulez, ces sites, moi je les utilise, j'ai d'abord été un utilisateur de sites comme Dig, et puis c'est ce qui m'a incité un petit peu, comme Dig, et puis aussi comme Agoravox, parce qu'on en parle moins, mais pour moi c'était au départ, d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure, l'origine de Presse Citron, l'origine c'était ça, c'était faire un site un petit peu comme Agoravox l'a fait plus tard. D'ailleurs le nom Presse Citron vient un peu de ça, il y avait Presse et puis il y avait Citron qui a une relation avec le prix Citron que la presse décerne à des journalistes, enfin c'était un clin d'œil en fait. Voilà, donc L'idée, c'était pas de faire de la concurrence aux journalistes, mais d'avoir un endroit où pouvoir s'informer facilement et puis avoir les meilleures informations qui remontent à la une, tout simplement.
Alors justement, vous avez sorti récemment la version 3 de Fuzz,
oui.
Juste en ligne. Pourriez-vous nous dire, nous faire un bilan de parcours à propos de Fuzz, justement, d'un point de vue trafic et rentabilité, et aussi comment vous voyez l'évolution du marché des dig-likes, et n'avez-vous pas peur que Fuzz tombe dans l'oubli dans quelques mois?
Alors, un bilan de parcours à propos de Fuzz. Bah, Fuzz a été lancé en fin 2005, décembre 2005, et donc ça fait maintenant, on va dire, un an et demi. La croissance a été régulière, elle a été même assez spectaculaire au départ, puisqu'on a très rapidement atteint un millier de membres et plus d'un millier de visiteurs uniques sur la première version. Mais quand je dis rapidement, c'est dans les premiers jours, la première ou les deuxièmes semaines. Et puis la progression a été constante, alors en nombre de visiteurs et autant en nombre d'inscrits. On avait une progression régulière de 10 à 20% par mois, tous les mois. Et on arrive maintenant à un plafond depuis on va dire un trimestre, où on sent qu'on arrive à une sorte de palier et qu'il va falloir trouver des relais de croissance pour continuer à se développer. Alors je précise quand même que Fuzz est une activité, est un site que j'ai créé avec deux copains en fait, et qui n'a pas du tout une structure traditionnelle, on va dire, de start-up. C'est plus un hobby entre copains et qu'on essaye de faire vivre et de développer au mieux qu'on le peut. On a tous des occupations à côté, on fait ça en plus, de façon tout à fait bénévole. Donc on n'a pas la structure, si vous voulez, pour faire vraiment décoller un site comme Fuzz, qui à mon avis a du potentiel. Il faudrait créer une véritable structure de start-up, s'y consacrer à une équipe de 4 ou 5 personnes à plein temps, lever des fonds, et voilà, donc on n'en est pas du tout là, ça pourrait peut-être venir un jour, mais on n'en est pas là. Et compte tenu, si vous voulez, du rapport d'investissement, temps investi, succès entre guillemets du site, en tout cas retombée du site, il est largement favorable, puisqu'aujourd'hui on a plusieurs milliers de visiteurs uniques par jour. On doit dépasser les 5000 visiteurs uniques par jour pour entre 20 et 30 000 pages vues tous les jours. L'objectif d'origine était d'atteindre les 10 000 visiteurs uniques par jour rapidement. On les atteint pas, et à mon avis il faudra un petit peu plus de temps que ça. Parce que la croissance de ce type de site en France, c'est culturel, je crois que c'est profondément culturel, est loin d'être celle que connaissent les États-Unis pour différentes raisons. Et un site, les sites comme Fuzz ou comme Scoop.io, comme Wikio, tous ces sites qui sont un petit peu classés à raison ou à tort dans la catégorie des dig-likes, à mon avis n'atteindront jamais ce qui devrait être le rythme de croisière qu'on espérait pour ce type de site.
Voilà. D'accord. Je vous remercie.
Alors après, pour que Fuzz, est-ce que j'ai peur que Fuzz tombe dans l'oubli dans quelques mois? Non. Non, au contraire, si vous voulez, moi je mise maintenant sur une croissance régulière mais longue. C'est-à-dire que bon, on atteindra nos 10 000 visiteurs uniques par jour, c'est incontestable et j'en suis convaincu. Mais au lieu de les atteindre mi-2007 comme je le pensais, on les atteindra peut-être fin 2007 ou mi-2008. Et puis on a des partenariats qui sont en cours, et notamment un gros partenariat avec un portail assez important qui devrait normalement être mis en place d'ici quelques semaines, je peux pas en dire plus pour l'instant, et qui risque de booster fortement l'audience. Voilà.
Alors, puisque vous nous avez donné l'origine de Presse Citron, vous pourriez faire pareil avec Fuzz. Comment avez-vous choisi ce nom?
Alors ça c'est simple, en fait on a sélectionné une liste de noms. C'est moi qui ai trouvé ce nom, tout simplement. Je voulais un nom court, je voulais un nom qui soit un petit peu international, même si on a une extension en .fr. Et puis il y avait deux autres raisons. C'est d'abord le fait que ça soit un mot qui se rapproche de buzz. On sait que le mot buzz est important dans la blogosphère. Et puis également, c'est un clin d'œil à une technique d'amplification du son des guitares électriques qui s'appelle le son fuzz. Et comme je suis moi-même un peu musicien, je trouvais marrant de faire ce rapprochement. et d'avoir ce nom qui sonne bien, qui est court, qui est facilement mémorisable, et dans lequel il y a cette notion de fusée l'information, en fait. Donc voilà, ça réunissait un certain nombre de critères qui nous convenaient parfaitement.
D'accord. Alors je vais revenir sur votre blog. Donc vous écrivez souvent à propos des technologies mobiles et vous nous dites les technologies mobiles arrivent à maturité. Comptez-vous développer des projets dans ce sens ?
Non, pas particulièrement. J'aimerais bien. J'ai quelques idées effectivement qui seraient pas forcément complètement liées au web, bien que le web mobile soit quelque chose qui me tienne à cœur et que je sur lequel j'investis du temps, en tout cas aujourd'hui en documentation. Mais j'ai pas de projet précis dans ce sens actuellement.
Alors vous devez faire pas mal de veille quand même à propos de ces technologies-là, puisqu'elles vous passionnent. Ouais. Est-ce que vous avez un produit ou une application qui vous a le plus marqué ces derniers temps ?
Dans les produits qui m'ont marqué, c'est les produits que j'utilise, donc j'en parle avec un point de vue d'utilisateur passionné, et puis en même temps, je suis pas forcément peut-être très objectif parce que c'est des les produits qui m'ont marqué, c'est les dernières générations de smartphones et de PDAphone qui permettent pratiquement de tout faire. J'aime beaucoup les produits de la gamme HTC Qtech que j'utilise quotidiennement et depuis longtemps. Je trouve aussi qu'un appareil comme le Treo et les dernières générations de Treo ont vraiment marqué une rupture avec ce qui pouvait se faire avant, tout en restant en étant issu du monde Palm, puis en passant après sous Windows. Après sur les technologies ou les sites, moi je sais pas, comme ça ce qui me vient à l'idée, c'est d'abord la possibilité de taguer des objets ou des lieux et de pouvoir avoir une documentation sur ces lieux en prenant en photo le tag avec son appareil photo, avec l'appareil photo de son téléphone. Alors il existe maintenant des tags qui vous renvoient directement sur l'article correspondant dans Wikipédia par exemple, donc ça je trouve c'est assez extraordinaire. Également des sites ou des services comme Orb qui transforment votre PC en serveur et qui vous permettent d'accéder à tous les fichiers multimédia de votre PC à partir d'un smartphone sous Windows Mobile ou même maintenant un smartphone Nokia. Donc si vous êtes que vous soyez chez vous en Wi-Fi ou à l'autre bout du monde, si vous laissez tourner votre PC en serveur avec le logiciel Orb, vous accédez à vos fichiers multimédia et vous pouvez sur l'écran de votre smartphone lire les documents qui se trouvent sur votre PC, lire les vidéos, écouter des fichiers audio, vous faire une playlist, regarder vos photos, voilà. Donc ça, je trouve que c'est une idée qui est assez géniale et que j'utilise pareil quotidiennement. J'utilise très souvent Orb. Autrement, des applications, des portages d'applications web en mobile. J'utilise aussi quotidiennement Bloglines mobile, la version mobile de Bloglines, qui est très très pratique et qui me permet de faire de la veille déportée, on va dire, quand je ne suis pas à mon bureau, directement sur l'écran de mon smartphone. Le type d'application que j'utilise tous les jours.
Alors, je vais terminer avec une question très 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 sérieuse, vous allez voir. Il s'agit donc d'un auditeur qui vous demande directement si vous êtes plutôt jean, t-shirt, chemise, t-shirt ou costard.
Alors costard, non, pas du tout. Sauf si c'est vraiment dans des circonstances où le costume est obligé, mais ça arrive très 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 rarement, même chez mes meilleurs clients, ils me connaissent, donc je peux me permettre de me payer le luxe d'arriver chez eux non seulement pas en costume mais pas rasé. Autrement, oui, plutôt on va dire jean, t-shirt, chemise, jean.
Merci beaucoup Eric. On espère fortement que Fuzz va redécoller, enfin va continuer sa progression et que vous trouverez les idées qu'il faut pour passer ce fameux palier. Voilà, et à très bientôt sur Vitamine.
Très bien, merci.
On écoute tout de suite Muse et on se retrouve après pour les bookmarks de Vitamine.
In Vitamine, we trust. Les bookmarks.
On commence tout de suite avec Blogasty, qui est un nouvel outil de promotion de blog actuellement en bêta test privé. L'adresse c'est blog.asty.com, Blogasty. C'est une bêta, donc c'est sur invitation uniquement. Cet outil a été créé par Christophe Lefebvre et se situe entre un réseau et un dig-like et a pour but de promouvoir les blogs selon la qualité de leurs billets. Hier soir, il restait encore quelques invitations disponibles sur blog.witalk.fr. Je suis tombée par hasard sur le site suivant et je l'ai bookmarqué. Il s'agit de evoluted.net. Vous trouverez sur ce site pas mal d'éléments de web design dans la partie communauté, notamment le PHP Directory Listing Script, ainsi que d'autres classes et scripts disponibles comme le JavaScript Comic Tagger, donc un script qui vous permet de taguer des bandes dessinées et de savoir combien de fois vous l'avez déjà consulté. Vous pouvez voir une application de ce script, une démo, donc sur little-gamers.com. Et enfin, le PHP Image Editor Class, qui vous permet d'éditer des images à la volée pour réaliser des modifications telles que le redimensionnement, rogner l'image ou ajouter des lignes et du texte. Donc je vous rappelle l'adresse, il s'agit de evoluted.net. Ensuite, je voulais vous parler d'un plugin WordPress cité sur le blog de Jason Bartholomé, qui est en fait une alternative à MyBlogLog. Il se nomme wp-slimstat et l'adresse du site étant compliquée, je vous propose de saisir wp-slimstat dans Google afin de retrouver ce plugin. Sur le site de Mike Davidson ensuite, à l'adresse mikeindustries.com/sifr, vous retrouverez un script qui vous permet d'écrire, et cela de façon accessible avec la police de votre choix, sachant que d'ordinaire, l'alternative quand on ne peut pas écrire une police sur une page web est d'afficher une image contenue avec le texte de la typographie souhaitée. Je voulais aussi faire une mention spéciale au groupe Ecoloband, donc ecoloband.com, qui a réalisé une petite prouesse puisqu'il s'est déjà positionné plusieurs fois de suite premier du concours SEO World Championship. Donc voilà, un petit coup de chapeau pour eux qui se débrouillent bien, on espère qu'ils finiront premier. On termine avec le Psychic Whois, qui, comme son nom l'indique, vous permet de consulter les informations du Whois. La particularité de ce site, c'est qu'il est en Ajax et qu'il vous suggère des noms au fur et à mesure de la saisie. Vous pouvez ainsi rapidement regarder ce qui existe comme nom de domaine selon votre quête.
Vitamine sur Zikosport.
Et voilà, Vitamine, c'est fini pour ce soir. En effet, vous avez rendez-vous tout de suite avec Sébastien et Ben, que je salue, pour l'émission La Banane. Sébastien vous a concocté d'ailleurs un super best-of. Vous allez voir, vous allez bien rigoler. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos suggestions sur le forum de Vitamine, donc www.vitamine.com/forum. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de Vitamine depuis la page d'accueil du site de Vitamine. Vous pourrez aussi bénéficier de toutes les news que je n'aurais pas eu le temps de vous citer à l'antenne. Enfin, pour le concours gagner une Phonera, sachez que le résultat sera affiché sur la page d'accueil de Vitamine. Je tenais enfin à remercier tous ceux qui, dans l'ombre, contribuent de près ou de loin à la diffusion de cette émission. Je dois avoir au moins une cinquantaine de personnes à citer minimum. Alors merci beaucoup à vous tous et bonne soirée sur Zikosport.
Vitamine. 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 Sur Zikosport, l'émission à consommer sans modération.